Vous êtes déporté, si vous êtes dans un pays qui est en feu, s'il y a des choses qui sont détruites, c'est super parce que vous allez pouvoir rebâtir. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, vous allez pouvoir construire avec Dieu. Et ce matin, j'avais cette pensée, puisque nous suivons la lecture du livre de Daniel, de reprendre un petit peu ce livre de Daniel et puis de parler sur la reconstruction, alors que tout semble défavorable, alors que tout semble nous séparer. On peut être déporté, mais on n'est jamais abandonné. Amen. Amen. Tu le dis à ton voisin, tu peux être déporté, mais en tout cas, tu n'es jamais abandonné. Ça, c'est important de se le dire. C'est quelque chose qui est merveilleux. Vous savez, moi, j'avais des collègues de travail, elles me disaient, « Ah, qu'est-ce que ta femme t'a préparé à manger ce midi ?» Parce que Marie-Andrée me préparait toujours un petit pique-nique. Et puis alors, il y a des fois, c'était une boîte de conserve. Je dis, oh, elle t'aime plus beaucoup, hein, une boîte de conserve. Alors moi, je disais, oui, mais choisis avec amour. Donc, ça prenait une autre consistance. Et on peut être dans les pires difficultés, on peut être dans des moments où on a l'impression qu'on est complètement abandonné, mais non, c'est pas vrai. Toutes les circonstances extérieures peuvent être défavorables, mais on n'est jamais abandonné par Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre pour devenir un homme, une femme qui a changé l'épreuve en bénédiction. Aujourd'hui, on a l'impression que la France est sous le joug d'un jugement. C'est pas faux, mais ce jugement, il est là pour nous booster, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on commence à prier, que les églises s'unissent dans la prière, que les chrétiens sortent témoigner. Vous savez, la persécution qu'il y a eu à Jérusalem contre les premiers chrétiens, ça a eu pour effet qu'ils se répandent dans tout le pays et qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Ça a eu pour répercussion que l'apôtre Paul a été appelé et qu'il a prêché aux nations jusqu'en Asie, partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose où l'épreuve, elle est là pour nous booster, pour que nous libérions quoi ? La bénédiction de Dieu. Alors peut-être il y a des jeunes, ils ont raté l'examen, il y a des choses, des notes qui ne sont pas... Eh bien écoute, sers-toi de cette épreuve pour rebondir. L'épreuve, elle est là comme pour dire, eh bien c'est une marche qui va t'élever vers Dieu. Tu vas commencer à te mettre dans la prière. Tu vas commencer à te mettre dans la repentance. Mais tu vas commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Et l'épreuve, elle va être changée en bénédiction. Vous voyez, on est sur un chantier, on voit des trucs qui sont en construction. Ce n'est pas fini, c'est en cours de route. Il faut remonter les manches. Ça demande de l'effort, ça demande un travail d'équipe. Mais en définitive, ce qu'on voit dans ces choses-là, eh bien, c'est que si on est un homme qui change l'épreuve en bénédiction, eh bien, l'impact de notre vie va toucher beaucoup de personnes et ça va avoir quelque chose qui va nous surprendre toujours. On va voir au travers du livre de Daniel que ça va toucher même les rois, les empereurs. Vous savez, l'empereur dit un mot, t'es décapité. Mais là, eh bien, Daniel, il va se lever, il va rester fidèle à Dieu et ça va toucher le cœur des différents empereurs qui se sont succédés. Non seulement ça va toucher le cœur des empereurs, mais ça va ébranler les puissances spirituelles. Et dans ce message, on va voir comment les puissances spirituelles ont été ébranlées par un homme qui s'est tenu à la brèche. Et puis ça a eu une influence sur tous les compagnons de Daniel. Et ici, vous êtes tous des frères et des sœurs. Amen. Tu peux toucher l'épaule de ton frère, de ta sœur. C'est ton compagnon de marche. Amen. Amen. Eh ouais, ça c'est bon. T'es pas tout seul. Et un des travaux que le diable, il veut, c'est nous isoler. Il veut nous faire croire qu'on est tout seul. C'est un mensonge. Moi, je sais, extraordinaire, j'ai de la chance, vous aussi, là, vous avez de la chance, les jeunes mariés, là. Bon, vous êtes mariés, vous n'êtes jamais seul. Même quand ton mari va au travail ou que toi, tu pars au travail de la maison, votre amour, il vous scelle dans la grâce. C'est indestructible. L'alliance que vous avez faite ensemble, elle est indestructible parce qu'elle est scellée par l'amour de Dieu, par la puissance du sang de l'agneau. Vous êtes des fils et des filles du Très-Haut. Et ça, c'est quelque chose. Et ça va toucher les nations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin, vraiment besoin de comprendre. Et il y a vraiment un verset biblique qui illustre ça. Je vous le donne tout de suite. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 16, 7, 8. Donc moi j'aimerais qu'on prenne ça pour nous. Tu peux avoir été appauvri. Tu peux avoir été transplanté dans un pays qui n'est pas le tien. Tu peux venir de Guadeloupe en France. Tu te dis, oh là, je me sens dans un pays, les Français quand même, c'est ma nation, mais ce n'est pas pareil que la Guadeloupe. Là-bas, il y a des palmiers, des cocotiers, des papayes, des glaces extraordinaires qu'on ne trouve pas ici. Et c'est vrai. Mais même si tu es transplanté dans un endroit aride, eh bien, le Seigneur, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et c'est quelque chose qui est important qu'on sache. Le livre de Daniel, il nous apprend trois choses. La première chose, c'est que Dieu est au contrôle. Il est souverain sur toute chose. La deuxième chose, le livre de Daniel, c'est un livre de révélation. On l'appelle la petite Apocalypse. Alors Apocalypse, on pense tout de suite fin du monde, destruction. Mais Apocalypse, ça ne veut pas dire ça. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire Dieu se révèle. Et c'est une bonne chose. Dieu, quand il se révèle dans l'Apocalypse, il dit quoi ? Je vais faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je vais faire toutes choses nouvelles. Eh bien, c'est ce que Dieu il veut faire au travers de vos vies. Il veut faire pour le monde toutes choses nouvelles. Il veut transformer non seulement ta vie, finir de la transformer, mais il veut transformer la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, la vie de tes voisins, la vie de ton quartier, la vie de ton pays, la vie des nations. Il veut aller jusque-là. Il commence un travail en toi qui est le début de quelque chose de nouveau. Et le livre de Daniel, eh bien, ça nous parle que même dans les périodes les plus sombres, les plus incompréhensibles, Dieu reste aux commandes et il en sort toujours victorieux. La troisième chose que ça nous apprend ce livre, c'est que, eh bien, ça révèle le caractère et les desseins de Dieu sur le monde. Et j'aimerais qu'on lise un verset, c'est dans Luc 1, 50, c'est dit « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Alors tu vas dire à ton voisin « La miséricorde de Dieu s'étend sur toi parce que tu crains Dieu. » La miséricorde s'étend sur toi parce que tu crains Dieu. Luc 1, 50. « Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'a dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Alors, on dit souvent, ma vie, elle est bien peu de choses, mais ta vie, elle peut changer l'histoire des nations comme Daniel a changé l'histoire de Babylone. Ça peut changer l'histoire des grands et des souverains, ça peut changer l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de chaque homme auquel Dieu reste attentif. Alors vous dites, moi je suis jeune. Ouais, ou alors peut-être vous dites, moi je suis vieux. Mais Dieu, il regarde pas l'âge. Dieu, il regarde ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe pour Daniel? On voit que Daniel, c'était un jeune homme quand il a été déporté. On l'a sorti de son pays d'Israël, on l'a amené dans la capitale Babylone, qui était une capitale vraiment avec de l'idolâtrie. Et là, on l'a retiré de sa nation, on l'a retiré de sa famille, on l'a détrôné quelque part. Et Daniel, il faisait partie d'une famille de sang royal ou de noble. C'est quelque chose qui nous est dit dans Daniel chapitre 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc Daniel, il appartenait soit à une famille noble, riche, soit à une famille de race royale. Et il est déporté. Et c'est quelque chose d'étonnant parce que quand on voit aujourd'hui les principes de guerre, on voit que tous ceux qui sont en pouvoir dans un pays, en général, quand il y a la guerre, c'est eux qui sont ciblés les premiers pour être tués. On décapite la tête pour pouvoir prendre possession d'une nation. Et là, le roi Nebuchadnezzar, il fait l'inverse. Il dit « Les nobles, les riches, vous les ramenez. » Parce que je vais les établir, je vais les transformer, je vais les remodeler, je vais m'en servir, ceux qui sont intelligents. Et Daniel est séparé de ses familles, de ses amis, de son milieu, de sa ville, de son pays. Il est emmené captif dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais pourtant, quelque chose ne change pas dans son cœur, c'est qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Et ça, on va en parler un petit peu, c'est que les qualités de Daniel, un homme selon le cœur de Dieu, et on va voir un petit peu ce qui nous intéresse. On voit qu'il est de famille noble ou royale, beau visage, rempli de sagesse, d'instruction. On voit aussi qu'il a une qualité extraordinaire, c'est que dans son cœur, il est résolu à servir l'Éternel. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est étonnant de voir que Daniel, il ne veut pas se conformer aux traditions du monde dans lequel il est mis, parce que les Juifs ne mangeaient pas tous les aliments, les Juifs ne buvaient pas n'importe quoi, et il sait que s'il refuse la nourriture du roi, il risque sa tête quelque part, parce qu'il désobéit. Mais il est résolu dans son cœur avant tout à servir Dieu. Et c'est quelque chose d'étonnant. Il est fidèle, il est intègre en regard de son appartenance au peuple juif, et il est audacieux pour oser dire au chef des eunuques, « Non, je ne mangerai pas les mets du roi parce que ça me souille. » Vous imaginez ? Il prend position politiquement, en disant « je vais pas, je désobéis au roi ». Et là, on va parler de quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est la désobéissance civique à cause de la foi. Est-ce qu'on doit se soumettre toujours à l'autorité qui nous demande de faire des choses qui sont contraires à l'Évangile ? Eh ben non. Et on voit quelque chose d'intéressant dans le livre de Daniel, et on l'a lu dans nos lectures, c'est qu'il va trouver le chef des eunuques et il lui dit « Je vois que tu es troublé par le fait que je te dis « je ne vais pas manger la nourriture du roi ». Et le chef des eunuques, il dit « ouais, ça me trouble parce que si le roi apprend que j'enlève la nourriture que vous devez manger, eh ben, il risque de me zigouiller ». Et alors Daniel, il a l'intelligence et la sagesse de prendre en compte ces choses-là. Il dit, écoute, mets-moi à l'épreuve, moi, avec mes trois amis, et donne-nous que des légumes pendant 10 jours. Et si au bout de 10 jours, tu vois qu'on a la tête abattue, qu'on a maigri, eh bien, à ce moment-là, tu en tires les conclusions. Mais si on se porte bien, alors tu vois que Dieu, il nous bénit, et tu vois que tu n'as rien à craindre parce qu'on aura pris même de l'embonpoint. Dur pour les dames, ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 jours, l'eunuque, il revient, l'intendant du roi revient, et puis il regarde les quatre qui sont devant lui, et ils avaient meilleure mine que les autres, et ils avaient pris du poids. Et alors l'eunuque, il dit, ok, marché conclu. Mais la désobéissance civique, c'est ça. C'est pas confronter forcément l'autorité, mais c'est amener l'autorité à rentrer dans la promesse de Dieu. C'est amener les autorités à se saisir qu'il y a un Dieu de grâce qui est plus puissant que les lois qu'ils ont données. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. La désobéissance civique, ce n'est pas forcément se dire comment on va résister à la loi. Non, il contourne la loi par des paroles de sagesse et il contourne la loi en disant, eh bien, mets la grâce de Dieu à l'épreuve. En fait, Daniel, il ne dit pas, mets-nous à l'épreuve. Il dit, eh bien, vois si la grâce de Dieu n'est pas suffisante pour que nous ayons un meilleur embonpoint et un meilleur aspect que ceux qui se nourrissent des nourritures du roi. Et c'est ça un petit peu, c'est placer l'autorité devant la sagesse de Dieu. Jésus, il a fait pareil. On a dit à Jésus, ah, est-il permis de payer l'impôt à César ou pas ? Et quand tu payes l'impôt à César, eh bien, quelque part, ça veut dire, je reconnais César comme Dieu. Je reconnais César comme celui qui est le maître. Et Jésus prend la pièce qui est dans la main des pharisiens et dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme effigie sur cette pièce ? Alors, les autres disent, il y a l'effigie de César. Et là, Jésus leur dit, bien, rendez à César ce qui lui appartient. Et puis, tout de suite, mets à Dieu ce qui lui revient aussi. Ça voulait dire, quelque part, rendez à César ce qui lui appartient, mais n'oubliez pas qui est le vrai Dieu. N'oubliez pas envers qui vous devez rendre votre adoration. Vous voyez, c'est ça la désobéissance civique. C'est pas dire je résiste à l'autorité, mais c'est confronter l'autorité à la grâce de Dieu. C'est permettre à l'autorité de s'apercevoir qu'il y a une grâce qui est au-dessus de lui. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça, parce qu'aujourd'hui, notre nation rentre dans une dimension où de plus en plus, on est en train de choisir des principes de mort au lieu de choisir des principes de vie. La loi sur l'aide à mourir, c'est quelque chose où on veut traiter la souffrance simplement en l'arrêtant, en donnant la mort. Et ce n'est pas juste. On peut traiter la souffrance par la grâce de Dieu, en accompagnant la personne à vivre dans la délivrance de la douleur. Et c'est ça l'accompagnement qu'on propose normalement dans les soins palliatifs. Moi, j'ai rencontré plusieurs médecins qui m'ont dit « on endort le patient quand il est trop dans la souffrance ». Et ce médecin, c'était un chef de service de soins palliatifs, et il disait « on vous réveille dans 10 jours ». Et puis dans 10 jours, on fait le point. Donc la perfusion qui endort le malade ne va pas forcément le conduire à la mort, ce n'est pas le but, mais c'est une suspension de la souffrance. Et au bout de 10 jours, il réveillait le patient, il disait « alors, bon, comment ça va maintenant ? Est-ce que tu te sens mieux ? Est-ce que les douleurs ont passé ?» Il faisait le point avec le malade, et souvent la réponse était « oui, ça va mieux, j'ai passé un cap, je vais mieux ». Et puis, si ce n'était pas le cas, on rendormait la personne et puis on laissait la nature faire son travail. S'il devait passer, ben, il passait dans l'autre royaume, le royaume de la vie éternelle. Parce que la mort, c'est un portail. On passe dans une vie éternelle. Mais avant de passer ce portail, on choisit quelle porte on va prendre. Ou celle du royaume de Dieu, ou celle de l'enfer. Moi, perso, je préfère le royaume de Dieu. J'avais des anesthésistes dans le service où je travaillais. Ils étaient toujours en train de me titiller. Ils me disaient, Jean, alors, hein, Sodome et Gomorre. Alors, ils me parlaient du péché, ils me parlaient d'un tas de trucs. Puis moi, je leur répondais, hé, les gars, la rôtissoire après la mort, c'est ce que vous voulez? Eh bien, quelque part, c'est placer les gens devant leurs responsabilités. La résistance civique, c'est annoncer le royaume de Dieu, mais l'annoncer d'une manière où on libère la vie de Dieu. On dit, ah, tu préfères vraiment, après ta mort, entrer dans la vie éternelle sur une rôtissoire en enfer, ou tu préfères quelque chose de plus sympa, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., que tu peux même recevoir dès aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, être résolu dans son cœur, annoncer le royaume de Dieu, toutes ces choses-là, ça a un prix, mais c'est aussi, quelque part, impacter les gens qui sont autour de nous. Et qu'est-ce que fait notre ami Daniel dans le livre de Daniel? Il va impacter les trois amis qui sont avec lui et il va leur donner envie de le suivre et de marcher dans ses principes. Si bien que les trois amis, quand le roi Nebuchadnezzar élève une statue devant, tout le monde devait adorer cette statue, devait se prosterner. Les trois amis, ils disent, nous, on ne se prosternera pas devant la statue parce qu'on n'idolâtre pas les statues, nous n'aimons que Dieu. Et le roi apprend ça et il les fait amener dans une fournaise ardente. Et les trois là, ils disent, sache bien au roi que nous ne prosternerons pas devant la statue, que si tu nous jettes dans la fournaise, sache bien que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, ça ne fait rien, on préfère rester adorer notre Dieu parce que c'est le seul Dieu. Ils sont dans une résistance frontale là. Mais ils sont dans une résistance frontale où ils libèrent la révélation de leur foi. Dieu est plus puissant. Il va nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas comme on pense, sache que nous, notre cœur, il est résolu à servir Dieu. Et comment ces trois amis de Daniel ont reçu ça? C'est parce qu'ils ont vu la démonstration de ce que Daniel aura manifesté quand il a dit à l'eunuque, moi, je ne me souillerai pas avec les mets du roi. Ils ont chopé ça. Sachez bien que vous êtes tous des influenceurs. Si vous décidez dans votre cœur de ne pas vous souiller avec les lois iniques, vous êtes un influenceur magnifique. Mais il faut que vous apportiez, que vous portiez ces choses-là avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu. Alors, il était un modèle et un leader pour ses amis, et vous êtes contagieux. Frédéric, quel sourire tu as tout le temps, même quand tu vas au travail. Vous savez, j'avais des collègues de travail, quand arrivait le lundi, comment ça va? Oh, comme un lundi matin. J'avais même une collègue qui disait, oh, moi je donne le 100%, dès lundi. Donc, 2% lundi, 2% le mardi, 2% le mercredi, 2% le vendredi, et le reste, le week-end. Bon, alors ça faisait 85% à peu près qu'elle donnait pour son week-end. Nous, on est tout le temps à fond. 100% pour le Seigneur. C'est important qu'on percute. D'accord? On est soumis aux autorités, malgré les conditions, mais rempli de compassion. Voyez que... Alors, je vais revenir en arrière. Hop. Alors, oui, si, on était... C'était la bonne dia. Bon, on repasse. Toc. Voilà. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il y a une intercession qui est faite par rapport aux autorités. Il ne va pas annoncer seulement, dire « je ne vais pas faire », mais il prie. Moi, un jour, j'avais besoin d'une augmentation. Et j'ai dit « il faut que j'aille trouver le directeur pour demander l'augmentation ». Mais avant de le trouver, j'ai dit « Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de cet homme ». Il y a une stratégie dans nos vies chrétiennes où la prière, elle doit précéder l'action. Et quand on a une vraie vie de prière qui précède l'action, on a du fruit. Et même si on est, je dirais, dans des situations cornéliennes, Dieu va agir. Peut-être pas de la manière qu'on l'attend, mais pour les trois amis de Daniel, ils ont été délivrés de la fournaise puisque le roi a vu un quatrième homme dans la fournaise qui ressemblait étonnamment à un fils de Dieu, il dit. Et il a dit, après il a annoncé que dans tout son royaume, ceux qui parlent mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, leur maison sera réduite en un tas d'immondices. Vous voyez, Nebuchadnezzar a commencé à être évangélisé au travers de Daniel, au travers de ses trois compagnons. Et ce n'est pas Babylone qui a changé... c'est pas Babylone qui a changé le cœur de Daniel, mais c'est Daniel qui a changé le cœur des Babyloniens. Alors, la stratégie de reconversion des Babyloniens. On donne un nom nouveau à Daniel. Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Et il devient... Quand il arrive à Babylone, on lui donne un autre nom, Belshazzar, prince de Bel ou faveur du dieu Bel. Il y a des gens qui vous donneront des noms. Rappelez-vous de qui vous êtes. Moi, je suis Jeannot, le fils du grand roi. Amen. Hein, ça, c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas suffisant. Les Babyloniens, ils vont... Il y a une intention d'amener de changer la destinée de la vie de Daniel et de donner une nouvelle orientation d'adoration spirituelle. Ça, c'est important qu'on comprenne que si on veut bouger votre nom, et c'est pour ça que moi j'aime bien les mariages, parce que dans le mariage, souvent, la dame, elle prend le nom de son mari. Alors, tu as intérêt à ce que le mari soit vraiment chrétien, hein. Si tu n'es pas chrétien, moi je connais plusieurs couples comme ça, bah tant pis pour toi. Je ne me marie pas avec toi. Et on a eu un couple comme ça, et le gars il est retourné, il est désespéré, jusqu'à ce que Dieu touche son cœur. Il a dit, comment se fait-il que ma bien-aimée veut absolument que je sois chrétien, etc. Je ne comprends rien à son Dieu. Mais il a fléchi son cœur devant Dieu. Et il a reçu l'amour de Jésus. Et ils ont pu se marier. Amen. Et c'est important de bien faire les choses dans le bon ordre. Parce que quand tu prends le nom de quelqu'un, tu prends ses racines spirituelles aussi. Il y a une intention. Et puis, il y a un écolage. On s'aperçoit que le roi, il dit, pendant 3 ans, ces jeunes gens que j'ai pris, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont apprendre la langue chaldéenne, ils vont apprendre la mentalité chaldéenne, ils vont manger notre nourriture, ils vont être rompus aux coutumes. C'est une rééducation. Et moi, j'ai été en Afrique, je peux vous dire que ça a été un petit peu ça. À un moment, j'étais dans un dispensaire en train de faire des soins, et j'ai mon laborantin qui arrive et qui me dit « Jean, t'es tout seul, c'est pas normal, on peut te faire rencontrer des jeunes filles, voilà, et tu resteras pas seul. Et moi, j'étais fiancé avec Marie-André. Je dis, eh ben non, moi, je suis déjà fiancé, mon cœur est pris, c'est pas la peine de me présenter d'autres jeunes filles. Oh, écoute, de toute manière, on te garantit, ces filles-là sont pas mariées, donc c'est pas un adultère. C'était une autre coutume. Et moi, j'ai dit, ben non. Moi, de toute manière, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec ma Marie-André. Amen. C'est vrai que cette fille-là, elle est épatante. Hein? Elle a su garder mon cœur. Eh bien, oui, oui. Vous savez, quand vous avez choisi quelqu'un dans votre vie, tiens, c'est pour les jeunes mariés, dans un Indien dans ma ville, là, il y a le gars, il explique... Quand tu es amoureux d'une fille, eh ben c'est la grande image qui vient se mettre dans ton cœur. Et cette grande image, elle cache toutes les autres. Tu peux avoir 10 millions de filles qui sont autour de toi, la grande image est là. Les autres, c'est une pâle reproduction que ça ne t'intéresse pas. Et c'est pareil pour les filles. La grande image dans le cœur, quand elle choisit un homme... Il y a cet homme-là qui est là. Il est merveilleux, il est extraordinaire. Amen. Donc, on voit que dans la spiritualité des Chaldéens, c'est un, on donne un nom nouveau avec le but de changer la destinée d'adoration et on fait un écolage pendant 3 années. Ce n'est pas un jour, c'est 3 années. Et en plus, on va déporter ces gens dans une terre complètement inconnue où on va les élever en autorité, on va les élever en autorité pour qu'ils règnent dans ces régions-là et qu'ils administrent ces régions-là. Et pourquoi ? Parce que, eh ben, ils sont dans un pays inconnu, avec un peuple inconnu, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts, ils ne vont pas prendre position pour, ils vont administrer avec justice ce peuple-là. Et donc ça évite la corruption. Mais quelque part, c'est un petit peu comme les chrétiens en Chine qui cherchent du travail. Quand on sait qu'ils sont chrétiens, souvent, non seulement on leur donne pas de travail, mais en plus, ils ne peuvent pas trouver de travail. Et on va leur dire, écoute, si tu renies ton Dieu, il y a un poste de direction qui t'attend dans telle usine. Il y a un poste de chef d'équipe qui est prévu pour toi. On a une belle maison à te donner. Tu seras un exemple. Tu seras celui qui a renié sa foi, c'est vrai, mais parce que tu sais que le parti, il t'offre mieux. Et les chrétiens qui refusent ça, eh ben, c'est des chrétiens qui sont intègres dans leur cœur et qui vont influer sur leur cité, qui vont influer sur leur nation. Il y a une corruption dans le monde. Alors, comment ça se passe dans le Nouveau Testament ? C'est la même stratégie. On voit par rapport à Jésus que sitôt après son baptême, il est emmené dans le désert et si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est un petit peu comme Daniel, on lui dit, mange les mets du roi. Eh ben non, je ne mangerai pas les mets du roi. Je ne vais pas transformer les pierres en pain. C'est une tentation par rapport au confort de ce monde. C'est la première séduction que le diable il essaye de te mettre. Si tu renies ta foi, je vais te donner meilleur. Je vais te donner mieux. Ben non, ça ne marche pas. La deuxième tentation que Jésus fait face, c'est le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus, il était rempli de la sagesse de Dieu, de la révélation de Dieu pour répondre. Et c'est ça, le diable, la deuxième chose qu'il essaye, c'est de détourner notre adoration. Le diable, il est malin. Il lui dit pas, tu vas plus adorer Dieu ton Père, Il lui dit, seulement si tu te prosternes devant moi, c'est bon, t'as toute la victoire sur la terre. Il ne parle pas du reste de l'univers, il parle juste des nations sur la terre. Le diable sait que le reste lui appartient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes sortes de séductions qui peuvent essayer de nous détourner de l'amour de Dieu. Mais à partir du moment où on décide de ne pas fléchir devant le diable, à partir du moment où on décide de rester fidèle à Dieu, il y a une sagesse de Dieu qui vient. Jésus lui répondit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et Daniel, on s'aperçoit qu'il est mis dans des situations cornéliennes. C'est-à-dire, à un moment, le roi, il a un rêve. Donc, relisez le livre de Daniel, si vous ne l'avez pas lu avec nous. Et dans ce rêve, le roi ne se rappelle même plus du rêve. Et il appelle tous les sages, tous les devins, et dit, « Vous me donnez mon rêve et vous me donnez son interprétation. » Et personne ne peut le faire. Personne. Et Daniel, il est sollicité, et je résume en quelques mots, Daniel, il rassemble ses compagnons et ils se mettent, quoi ? Ils se mettent dans la prière. Et quand vous êtes dans une impasse, quand vous êtes dans des situations difficiles, mettez-vous dans la prière avec vos frères et sœurs. Rassemblez la famille, les enfants, rassemblez l'église et commencez à vous mettre dans la prière. Et là, Dieu va parler. Et Dieu parle à Daniel et lui révèle le songe du roi et il en a l'interprétation. Et vous savez ce qui se passe ? Daniel est élevé en autorité sur tous les devins, sur tous les magiciens dont il a sauvé la vie. Les puissances spirituelles sont ébranlées, simplement parce que Daniel est resté intègre, simplement parce que Daniel s'est mis dans la prière, simplement parce que Daniel a consulté son Dieu. Et Dieu, il a une solution pour vous. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai dû restituer les affaires que j'avais volées avant. Il fallait que j'aie un casier judiciaire vierge pour rentrer dans une école d'infirmiers. Et je savais qu'en allant dans mon ancien employeur, si je lui disais que je me droguais et que je volais, je risquais d'être emmené en prison. Et Dieu m'a parlé et il m'a dit « vas-y ». Alors, j'étais pas très chaud. Hein, Alors, j'ai prié. Là, je peux vous dire, le moulin à prière a tourné à fond. J'ai demandé à mon père, à ma maman de prier pour moi. Ils ont prié, ils ont tout fait et je suis parti. Et quand je suis arrivé, j'étais sûr que le chef de la sécurité, qui était un Corse, lui, quand il se mettait en colère, il était chauve. Et son crâne, il devenait tout rouge. Et le gars, il était un peu bizarre parce qu'il se mettait sur le toit de l'entreprise et par les lucarnes, il surveillait si des employés faisaient des fautes pour pouvoir les pénaliser. Je me dis, ce gars-là, c'est sûr, il m'emmène à la douane, il m'emmène à la police, je suis cuit. Et quand j'arrive avec ma petite mallette où j'avais encore des choses que j'avais volées dans l'entreprise, je vais voir le gars au comptoir, je dis, je vais voir le chef de la sécurité. Il y a un monsieur, costume trois pièces, qui se tourne vers moi et qui me dit, le chef de la sécurité, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai été sauvé. C'était plus le Corse. Lui, il n'était pas chauve, il avait des cheveux. Alors je lui ai dit, ben monsieur, je suis désolé, j'étais employé ici, j'ai volé des choses dans l'entreprise. Voilà, je vous les rapporte, ce que je peux rapporter. Il dit, montez avec moi dans le bureau, vous allez me dire ça. Et je vais dans le bureau, et là, il me dit, racontez-moi votre histoire. Et je lui dis, voilà, avant je n'étais pas chrétien, mais Dieu, il a changé mon cœur, il a changé ma vie. Avant j'allais dans les avions, je piquais les pharmacies de bord, je faisais des tas de trucs qui n'étaient pas justes. Je me droguais, mais je n'ai jamais fait de trafic. Et le gars, il me dit, ouvrez la valise. Donc, il regarde ce que j'avais dans la valise. Écoutez, asseyez-vous, tranquillisez-vous, c'est rien du tout tout ça. Et puis, il a commencé à me parler de sa petite nièce qui se droguait et m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et puis après, il est venu à lui et il a dit, moi, ma drogue, c'est le whisky, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, la conclusion de la discussion, ça a été, mais je vais vous citer au tableau d'honneur de l'entreprise comme le meilleur ouvrier qu'on ait jamais eu. Je dis, eh ben non, c'est à Jésus que ça revient. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est à Jésus que revient cet honneur. Ce n'est pas à moi. Alors lui, il a insisté pour que ce soit à moi. Bon. Mais moi, je tenais ferme dans ma résolution. C'est à Jésus qu'on doit donner l'honneur. C'est important. Et la vie de cet homme a été impactée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mais je sais que si on commence à vivre la dimension de notre foi, même dans l'adversité, même si on risque de casser son avenir, si j'avais un casier judiciaire, je ne pouvais pas rentrer à l'école d'infirmier, je ne pouvais pas faire le projet que j'avais, si on donne ses projets à Dieu, Dieu ouvre une autre porte. Je peux vous dire que quand je suis sorti de l'entreprise, je marchais 50 cm au-dessus du sol, quoi. La valise légère. Ben, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la résistance civique. On n'est plus de ce monde. On n'a plus à se conformer à ce monde. Daniel s'est pas conformé au roi de Babylone. Il s'est pas conformé aux coutumes de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas conformés à Babylone. Ils ont amené la parole de vie dans Babylone. Nebuchadnezzar a dit, le Dieu que sert ce Daniel, c'est le Dieu très haut. Les autres rois qui lui ont succédé, y compris Darius, ont dit, le Dieu saint, qui habite dans le cœur de Daniel, c'est le Dieu qui est au-dessus des nations. C'est Babylone qui a été évangélisée par Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et nous, de la même manière, on doit apporter cette vie. On retrouve les épreuves auxquelles Daniel a été soumis, ça c'est une chose qui est certaine, mais la tentation de la nourriture, vivre selon les désirs et les conforts humains, avoir un bel appartement, une belle maison, une belle voiture, toutes ces choses-là, si c'est auprès de notre foi, on n'en veut pas. Le détournement de l'adoration au travers de la corruption et du pouvoir, je vais te mettre en place d'honneur dans l'entreprise. Non, c'est à Jésus que ça revient. C'est important qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Ces choses arrivent. Le fait d'usurper la place du Créateur pour sa propre gloire, eh bien, Daniel, il s'attribue aucun mérite, mais il rend gloire à Dieu. Quand vous relisez ça, il dit, c'est pas par ma sagesse que j'ai cette révélation-là. C'est par la sagesse de Dieu qui m'a révélé ton secret, roi, ton rêve. Alors, pour nous, comme pour Daniel, il y a un choix. C'est celui d'impacter le monde. Et on lit ce verset, « Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a un prix à payer pour avoir la sagesse de Dieu. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » C'est l'exemple des trois amis de Daniel qui étaient prêts à dire « On est d'accord d'aller dans la fournaise, t'inquiète pas, notre Dieu nous délivrera. De toute manière, nous ne céderons pas. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il s'agit là d'un abandon de nos vies entre les mains de Dieu comme Jésus l'a fait. Jésus, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et c'est ça qui doit garder nos cœurs. Et si on a cette dimension-là, Dieu nous ouvre la sagesse. Il nous donne les mots qu'on doit dire au bon moment, au juge. à la police, à notre patron, à nos collègues de travail. Il va nous donner la bonne attitude. C'est ça qui est important. Daniel est gardé des lions, tout le monde connaît cette histoire. Les amis de Daniel sortent du feu. Étienne, l'apôtre, dans les Actes des apôtres, il voit la gloire du Fils de l'homme descendre des cieux sur lui au moment même où il est lapidé. Il a la révélation de Jésus. Il y a une porte qui s'ouvre. Et sachez bien qu'il y a une porte pour chacun, chacune de nos vies, même au pire moment. D'accord ? Je vais arrêter là. Je vais simplement demander qu'on soit de ces gens qui ne voient pas les épreuves comme quelque chose d'insurmontable, mais qu'on voie vraiment les épreuves comme une terre de bénédiction, parce qu'on est là pour bâtir avec Dieu. Comme une occasion, on est déporté peut-être, mais on n'est pas abandonné. Et on peut influer par notre comportement sur les grands, sur les rois, sur les puissances spirituelles, sur nos compagnons qui nous suivent et sur les nations. Donc vivons cette dimension-là. Je vous invite à prier. Seigneur, on se remet devant toi parce que par nos forces, on reconnaît qu'on ne peut rien. Seigneur, par ma sagesse, je ne peux rien non plus. Mais viens nous remplir, viens nous visiter, Seigneur, afin que ta sagesse brille en nous, que nous puissions rayonner de ton intelligence, que nous puissions prendre à cœur nos amis, nos voisins, notre nation, Seigneur. Le feu qui brûle en France, Seigneur, les inondations qui ont eu lieu, les lois iniques qui sont proclamées, Seigneur, c'est comme une terre qui brûle, mais c'est une terre où on va pouvoir creuser, où on va pouvoir planter ta parole de vie, où on va pouvoir faire connaître tes préceptes, où on va faire connaître ta sagesse, ton amour, tes conseils, une démonstration de puissance, Seigneur. On t'appelle à faire de nous des hommes qui vont influer, des femmes qui vont dispenser la parole de vérité, Seigneur, et qui vont transformer la nation. Seigneur, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont transformé Babylone et l'histoire de Babylone. Seigneur, parce qu'ils ont permis, Seigneur, aux grands de ce monde d'entendre qui tu es, de connaître et de démontrer ta puissance. Tu es venu les rejoindre au milieu de la fournaise. Tu es venu pour fermer la gueule des lions. Tu es venu pour ouvrir, Seigneur, l'intelligence et livrer le secret du roi à Daniel. De la même manière, Seigneur, tu nous as équipés des dons spirituels. Seigneur, nous voulons être revêtus, Seigneur, non pas pour nous-mêmes, mais nous voulons être revêtus de puissance pour dispenser ta sagesse, ton intelligence, ton conseil sur les maires, sur les élus, sur les magistrats, sur les autorités, sur les policiers, sur nos voisins, sur nos collègues de travail. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Remplis-nous de ta sagesse. Fais de nous des hommes, des femmes de prière, que nous soyons instruits pour que ton bras, Seigneur, puisse bouger au travers de nous, Seigneur. Apprends-nous à renoncer à notre confort pour prendre, Seigneur, notre croix et marcher selon ton cœur et libérer les bénédictions que tu as. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.